journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, la justice française qui rouvre un épisode oublié de la Seconde Guerre mondiale. La rafle du Vieux-Port, 20 000 personnes raflées en 1943 à Marseille. Ouverture d'une enquête pour crime contre l'humanité saluée par les rescapés, on entendra l'une d'elles. La justice à la recherche de responsables alors que s'ouvrent ce matin les commémorations des 75 ans du débarquement allié. Début des cérémonies à Portsmouth. En Angleterre, nous serons sur place. Dans l'actualité également, Renault qui envisage de porter plainte contre Carlos Ghosn suite à la découverte de 11 millions d'euros de dépenses suspectes. Demi-finale de rêve demain à Roland-Garros entre Nadal et Federer. On parlera aussi de la journée spéciale sur Inter aujourd'hui, le plastique non merci avec un reportage sur le recyclage des mégots. 30 milliards de mégots sont jetés chaque année en France. Et puis on parlera du dernier rapport sur les inégalités, les 10% les plus riches s'éloignent des 10% les plus pauvres.
Invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, j'ai nommé Christian Jacob.
France Inter.
C'était il y a 75 ans, le 6 juin au matin, plus de 150 000 soldats alliés arrivent en Normandie pour l'opération Neptune.
Le plus grand débarquement de l'histoire, les commémorations de ce 75e anniversaire commenceront ce matin en Angleterre, nous y serons dans un instant. Mais avant cela, je vous propose de revenir sur un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale, sur lequel la justice a donc décidé d'ouvrir hier une enquête pour crime contre l'humanité. Il s'agit de la rafle dite du Vieux-Port. On est à Marseille en janvier 43. À l'époque, 20 000 personnes sont évacuées de force de ce quartier populaire surnommé la Petite Naples. Évacuation menée par les Allemands mais aussi par la police française. Au final, 800 juifs déportés dans les camps de la mort, 12 000 personnes envoyées dans un camp de rétention à Fréjus et le quartier du Vieux-Port totalement dynamité. 76 ans après, une rescapée se souvient. Josette Lombardi a aujourd'hui 87 ans et elle salue l'ouverture de cette enquête judiciaire pour retrouver peut-être d'éventuels responsables encore en vie.
C'est justifié parce que mon papa, il est mort pour rien. C'est vrai que ça a été criminel. J'avais 10 ans, j'ai jamais pu l'oublier. On habitait les vieux quartiers qu'on appelait le Vieux-Port. Et ce matin-là, il y avait un garde mobile français et un officier allemand devant chaque couloir qui nous ont escortés jusqu'au tramway pour nous amener dans ces trains à bestiaux, debout, serrés un contre l'autre, on ne savait pas où on allait. On nous a blindés par dehors. Et je me souviens que je disais à mon papa, « Papa, ouvre la fenêtre, pour moi, c'est les barreaux, on pouvait ouvrir. » Ils ont séparé les hommes des femmes. Là, mon papa, il n'est plus redescendu.
Josette Lombardi, rescapée de la rafle du Vieux-Port avec Thibaut Maisonneuve de France Bleu Provence.
Et direction l'Angleterre pour les 75 ans du débarquement.
Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Portsmouth au sud de l'Angleterre. C'est de là que sont donc partis les premiers soldats pour les plages normandes. Et c'est là que vont se retrouver d'ici quelques heures les dirigeants des pays alliés pendant la Seconde Guerre pour donner le coup d'envoi, je le disais, des célébrations au programme Donald Trump, Emmanuel Macron, la reine Elisabeth ainsi que 300 vétérans. Un rassemblement sous très haute sécurité, Antoine, voire même une sécurité un peu excessive, hein.
Avec, oui, des kilomètres de grillage face à la mer, tout autour de la plage. L'armée a déposé dès ce matin, très tôt, des blocs de béton pour couper les routes et mis en place des points de contrôle pour fouiller les sacs, vérifier les identités. Les habitants des alentours ont même reçu des consignes. Pas question d'utiliser des drones ce matin. Pas question non plus de prendre des photos au téléobjectif depuis les fenêtres des maisons ou des immeubles pour ne pas que les services de sécurité les confondent avec des fusils à lunettes. Mesure exceptionnelle donc pour protéger la reine, le prince Charles, la quinzaine de chefs d'État. Parmi eux, Emmanuel Macron lira tout à l'heure la lettre d'Henri Fertet, jeune résistant de 16 ans, fusillé par les nazis. Theresa May sera là avec des représentants européens, australiens, canadiens et évidemment Donald Trump, le président des États-Unis attendu de pied ferme avec deux rassemblements pour protester contre la politique américaine dans le centre-ville et près de la plage. Les vétérans, eux, veulent se concentrer sur le souvenir. 300 d'entre eux monteront ce soir à bord du MV Boudicca pour traverser traverser la Manche en direction de la Normandie. Il y aura avant des chants, des extraits de discours de Churchill et Eisenhower, des coups de canon et le survol de la côte par des Spitfire de la Seconde Guerre mondiale et des Red Arrows, l'équivalent anglais de la patrouille de France.
Antoine Gignot, correspondant au Royaume-Uni, merci, en direct de Portsmouth. Suite des cérémonies demain en France, cette fois-ci avec notamment Emmanuel Macron et Donald Trump côte à côte au cimetière américain de Colville-sur-Mer. On reste en Europe avec l'Italie. L'Italie dans le viseur de la Commission européenne pour déficit excessif. C'est aujourd'hui que Bruxelles pourrait décider d'ouvrir une procédure contre Rome. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, Ligue Mouvement 5 étoiles, les comptes publics n'ont cessé de se dégrader. La Commission brandit donc la menace d'une procédure disciplinaire, mais en face, pas question de se laisser faire. Matteo Salvini, l'homme fort de la coalition, promet d'être le plus têtu, dit-il. Pas sûr toutefois qu'il en ait les moyens. À Rome, Mathilde Imberti.
Le plan de contre-attaque à Bruxelles côté italien est pour le moins flou. Le ministre de l'économie, dans une lettre adressée à la Commission vendredi, promet de réduire le déficit budgétaire pour éviter une procédure sans expliquer par quels moyens. Quant aux alliés de gouvernement, Ligue et 5 étoiles, ils affichent des visions contradictoires. Les 5 étoiles jurent que les aides sociales ne baisseront pas d'un centime et avancent un nouveau dispositif de soutien aux familles. La Ligue, elle, veut tenir sa promesse de baisser les impôts. Matteo Salvini se dit prêt à contourner les règles européennes qui étouffent l'Italie, juge-t-il. Les États doivent reprendre leur souveraineté, clame le grand vainqueur des élections européennes. Mais vu de Bruxelles, le coup d'éclat des nationalistes ne change rien à l'implacable observation des données économiques. L'Italie affiche une dette à 132% du PIB. Elle creuse son déficit au lieu de le diminuer. Sa croissance est au point mort. Ce mercredi, la Commission devrait par conséquent recommander l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif. Et c'est un exécutif vacillant qui va devoir y répondre. Conscient de partir mal armé face aux exigences de Bruxelles, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a réclamé au leader de se ressaisir, faute de quoi il démissionnerait. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
De moins en moins de pays pauvres dans le monde, constat plutôt encourageant dressé par le rapport de la Banque mondiale. On est passé de 60 pays pauvres en l'an 2000 à 34 cette année, moitié moins en 20 ans, grâce, dit la Banque mondiale, à la mondialisation. La mondialisation qui peine toutefois à mettre fin aux inégalités. En France, ces inégalités n'explosent pas, mais elles persistent d'année en année. L'Observatoire des inégalités publie son bilan annuel aujourd'hui, un tableau complexe qui démonte certains clichés. À force en effet de se concentrer sur les 1% les plus riches, on en oublie souvent tout un pan de la société, les 10% les plus aisés, comme si un riche pouvait en cacher plein d'autres, Claire Chaudière.
Le credo du « tous contre les super riches », ces 1% les plus privilégiés, cache un tour de passe-passe de plus en plus problématique, explique Louis Morin, le directeur de l'Observatoire des inégalités. Ce sont en réalité les 10% les plus aisés qui refusent, consciemment ou inconsciemment, de regarder la réalité en face.
Les classes aisées se font appeler couches moyennes supérieures. C'est ça le tour de passe-passe, c'est se déguiser en moyen pour dire bah, « nous on n'est pas riches, il y a toujours plus riches que moi ». Aujourd'hui, pour une personne seul, quand on est au-dessus de 3200 euros par mois après impôts et prestations sociales, on est dans les 10% les plus riches.
Catégorie sociale qui bénéficie par ailleurs de revenus du patrimoine et qui récupère elle seule 23% du gâteau total des revenus. Les 10% les plus pauvres gagnent près de 9 fois moins. Ce sont ces deux visages de la société qui s'éloignent.
C'est pas une explosion des écarts de niveau de vie, mais des couches qui se séparent. Et puis tout un ensemble d'éléments liés notamment au diplôme qui clivent la société française. Le fait de savoir ce qu'on sera demain, quelque chose d'essentiel.
Des inégalités encore aggravées avec la montée en puissance de nouvelles formes de précarité et notamment tous ces indépendants utilisant les plateformes.
Le plastique, non merci, deuxième journée spéciale aujourd'hui sur Inter, le plastique qui se retrouve là où on ne l'attend pas, dans les mégots de cigarettes par exemple, les mégots qui sont de véritables bombes écologiques et le recyclage, Lisa Guyenne n'en est qu'à ses débuts.
Tous les matins dans les rues de Paris, c'est le même rituel. Les brigades de nettoyage ramassent les déchets de la veille et les mégots sont omniprésents. Clark et Pacôme, deux employés de la mairie de Paris.
Tous les jours, des mégots, des milliers de mégots.
Sur notre secteur rue du Château d'Eau, on a eu une place complète remplie de mégots parce qu'il y avait une soirée festive la veille.
Des mégots remplis de milliers de substances toxiques qui finiront au mieux à l'incinération avec les autres déchets, au pire dans les égouts et donc dans la nature.
Un mégot, c'est une matière plastique, un ester d'acétate de cellulose. Et lorsque le mégot va se dégrader, ce mégot va se transformer en micro-particules de plastique. Donc c'est un déchet qui au final ne se... dégrade pas.
Jérôme Guillard est l'un des responsables de l'entreprise Mégo qui possède la seule usine française de recyclage de cigarettes à Bourblanc dans le Finistère.
On va récupérer nous tout simplement le filtre. Donc c'est une matière plastique qui est composée à 80% de pétrole et à 20% de cellulose, donc de bois. Le mégot de cigarette va passer dans des bains de dépollution et on va capter l'intégralité des produits toxiques qui sont présents dans les mégots de cigarettes.
Ce plastique est ensuite transformé en bancs et autres mobiliers urbains. En 2018, l'entreprise a recyclé environ 280 millions de mégots, mais cela reste une goutte d'eau comparée aux 30 milliards qui sont jetés par terre chaque année en France.
Lisa Guyenne, J-2 avant le début de la Coupe du Monde de football féminin. Tous et toutes à vos maillots, y compris les mères de famille. Exemple dans le 18e arrondissement de Paris, où des mamans complètement novices en matière de ballon rond ont décidé de créer leur propre équipe de foot. Yann Gallic.
Sur la pelouse, les footballeuses de l'Olympique Montmartre affichent une grande détermination malgré les passes et les contrôles ratés. Aujourd'hui, elles jouent un match amical sous le regard attentif de leur entraîneur.
Monte, encore.
La plupart des joueuses sont des débutantes, des mères de famille comme Nathalie, qui ne s'intéressait pas du tout au football il y a encore 2 ans.
C'est vraiment parti sur la base de nos enfants qui jouent au foot. Et puis après, c'est devenu une bande de copines. Jamais on aurait cru qu'on se serait mis au football. Le plus dur, ça a été de se mettre à l'apprentissage des règles. Mais on progresse.
Va, Loretta, va pour nous. Essaye, tire.
Vous êtes blessée?
Oui, je me suis blessée, ouais.
C'est comment votre prénom?
Astouf. Même si on perd, c'est pas grave. On prend du plaisir à jouer ensemble, à partager et nous évader un petit peu du quotidien. Et c'est quand même super génial, quoi.
À 56 ans, Loretta est la doyenne de la bande. Ancienne avocate d'origine australienne, c'est elle qui a eu l'idée de créer cette équipe féminine.
C'est mieux de faire ça que de rester à la maison, quoi.
Loretta, est-ce que vous allez suivre la Coupe du Monde féminine?
Absolument. Parce que moi, je veux voir les filles, les bleues, pour montrer que les femmes, ils font autant que les hommes. Malheureusement, ils n'ont pas la même reconnaissance. Mais je pense que cette Coupe du Monde va changer la donne.
Lundi prochain, les joueuses de l'Olympique Montmartre iront voir un match de la Coupe du Monde au Parc des Princes. Un stade qu'elles découvriront pour la première fois.
Voilà, le match d'ouverture, c'est dans 2 jours. Les Bleus affronteront la Corée du Sud vendredi soir au Parc des Princes à Paris. Match à guichet fermé. Merci Sébastien Logeni.